Bien, bonjour alors à tous les lecteurs d'ActuSF. Donc on est très heureux de pouvoir discuter un petit peu avec Serge Lehmann au sujet de la sortie de L'Œil de la Nuit, donc dans la continuité de la Brigade Chimérique, de Masqué, donc des super-héros français qui reviennent un petit peu. Alors, première interrogation, alors revenir un peu sur la genèse de L'Œil de la Nuit, pourquoi avoir choisi le personnage de Nick Talop en particulier, puisqu'il y en avait d'autres qui pouvaient s'imposer.
Ben, c'est au moins depuis une dizaine d'années, je travaille sur la question de l'imaginaire français et européen. Avec une quasi-certitude que l'absence d'une tradition vénérable, alors que ce soit la question des super-héros ou même celle de la science-fiction en général, c'est-à-dire que nous vivions ces domaines depuis les années 50 comme si nous étions gentiment invités à un pique-nique organisé par d'autres. Et l'histoire éditoriale, l'histoire des textes, l'histoire des auteurs montre qu'on avait tout à fait de quoi, si tu veux, faire vivre, enfin transmettre et faire vivre une tradition qui remonte, qui est aussi vénérable que celle des Anglais, qui remonte à Jules Verne, qui remonte à même jusqu'au début du 19e siècle, si on veut vraiment quelque chose de plausible. Bon. Ce sentiment d'une tradition ne s'est pas transmis après-guerre, alors qu'il était transmis avant, qu'il était en construction avant. Voilà. Donc moi j'essaye de renouer le lien entre ces deux périodes, c'est-à-dire j'essaye d'articuler mon éducation esthétique, mon monde esthétique qui a essentiellement été anglo-américain, disons jusqu'à 40 ans, l'ancien patrimoine français qui a été oublié et qui peut revivre sous certaines conditions, sous cette condition d'être modernisé. Voilà. Donc, on avait fait ça dans la brigade, on avait expliqué cette rupture de la chaîne de transmission dans la brigade, et puis finalement ça a assez bien marché pour qu'on nous demande de songer non pas à des suites, mais à déployer cet univers. Donc si tu veux, après on avait fait un tâtonnement avec L'Homme truqué, où on voulait montrer justement l'immédiate après-guerre. Et ensuite, Delcourt on a proposé à Delcourt de partir sur la genèse du Nick Talop, parce que le récit lui-même est très très significatif de cette fondation, très significatif de cette fondation de ce qu'on appelait le merveilleux scientifique. Voilà, le Nick Talop, c'est le personnage central d'un univers assez frappant, en fait, construit par Jean de La Hire. Il est frappant parce qu'il est très moderne, et il est très moderne parce que Jean de La Hire ne savait pas que ce qu'il faisait était moderne. Il gagnait simplement du temps. Je crois que c'est... En fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est parce que c'était un assez piètre écrivain, que c'était un feuilletoniste, sans scrupule, on va dire, qui n'hésitait pas à se plagier lui-même, qui, quand il était à court d'idées, reprenait un chapitre entier d'un de ses romans, changeait les noms et recommençait un roman à partir de là. Bon, c'était quelqu'un qui exécutait de la littérature industrielle. Mais justement, cette désinvolture fait que l'univers du Nick Talop apparaît en fait comme un grand crossover de toute la première science-fiction européenne, puisqu'on y voit les Martiens de Wells, on entend parler de Sherlock Holmes, il y a des aventures sous-marines comme dans Jules Verne, tu vois, bon, et c'est cet univers-là qui est... Bon, et puis ce qui est très marrant aussi, ce qui est très moderne, c'est que Jean de La Hire s'y met lui-même en scène, c'est-à-dire comme celui qui reçoit les confidences il n'invente pas un personnage de récepteur comme Conan Doyle avait fait avec le Dr Watson. Il se met lui-même en scène dans le récit en disant « je reçois les histoires de Sinclair, le Nick Talop ». Or, ce n'est pas possible, ces histoires se passent dans le futur. Donc, il y a une espèce de je m'en foutisme généralisé qui est exactement le fond des univers partagés d'aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas grave de faire coexister Hercule, Thor et Superman. On s'en fout, tu vois, c'est intéressant, c'est beau, bon, on voudrait voir. Ben, c'est pareil avec lui, il est premier à avoir au fond cette démarche là, il le fait pas de manière délibérée, il le fait parce qu'il a pas le temps de faire autrement et que voilà, il prend ses idées partout, y compris chez ses confrères, y compris en faisant semblant de les transformer en les siennes. Bon. Et donc cet univers finalement il est assez facile à faire revivre parce qu'il ne se limite pas au personnage du Nyctalope. Il est le Nyctalope avec autour tout un univers, qui est le nôtre, qui est notre vieil univers de science-fiction qu'on avait oublié.
Voilà. Oui, justement, dans L'œil de la nuit, il y a toute une galerie de personnages, de fiction, de personnages qui ont existé aussi. Ouais. Est-ce que c'était pas au niveau du choix justement des différents personnages qui allaient graviter autour du Nyctalope du coup, comment ça s'est décidé? Est-ce qu'il y a certains personnages qui t'ont paru tout de suite
Moi j'ai construit l'histoire en assemblant deux textes de Lahire. Le premier roman consacré au personnage du Nyctalope, ça s'intitule Le mystère des 15 et c'est l'histoire d'un voyage sur Mars. Et le Nyctalope et le Nyctalope tout de suite, ses origines ne sont pas expliquées, ses pouvoirs ne sont pas expliqués, etc. Je voulais pas commencer comme ça, donc j'ai réuni deux romans de Lahire, un qu'il a écrit des années plus tard, qui est pratiquement un roman jeunesse en fait, qui s'appelle L'assassinat du Nyctalope, et où on voit le Nyctalope être torturé, tué et finalement sauvé in extremis, ramené à la vie par un cœur artificiel. Donc Lahire a écrit ça en 33, donc c'est comme ça qu'il justifie l'origine des pouvoirs, et idem pour la nyctalopie, un coup à la tempe, enfin je sais plus exactement. Donc j'ai raconté ça, mais l'intrigue était très très mince, tu vois, et donc je l'ai aussi mélangé à l'intrigue de L'homme qui peut vivre dans l'eau, qui est le premier roman feuilleton que Lahire a publié, pas le premier, le deuxième que Lahire a publié dans Le Matin, et qui met en scène le père du nyctalope, affrontant une sorte de terrorisme sous-marin, anarcho-chrétien, bizarre, et qui a créé, organisation qui a créé un homme requin. Bon. Et je me suis dit, bah voilà, il faut arriver à ce que le récit des origines condense à la fois le récit du père et le récit, disons, de la métamorphose du fils. Et donc l'histoire, les deux premiers tomes entrelacent ces deux perspectives. Alors comment on choisit les personnages après? Notre méthode, elle était d'abord inconsciente et puis elle est devenue de plus en plus consciente au fur et à mesure qu'on l'utilise, et que c'est au fond notre marque, quoi, notre style. C'est ce qui fait que c'est pas tout à fait la BD industrielle, quoi, qu'on essaie d'y mettre une forme, un contenu. On rend visible les mythologies de l'époque. Mais les mythologies de l'époque, c'est pas que Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Un personnage comme Clémenceau, quand il s'appelle le Tigre, il est dans la mythologie de l'époque, tu vois. Bertillon, l'inventeur de la technique des empreintes digitales, enfin, ou importateur, parce qu'elle avait été découverte aussi en Angleterre, mais aussi étant capable de comprendre l'intérêt rationnel de cette technique. Souscrivant à des croyances scientifiques absolument dingues, comme c'était un ultra raciste qui était persuadé que le destin de chaque personne résidait dans la forme de son crâne. Enfin bon, quand on pense que ces gens-là ont été les grands chefs de la police technique et scientifique, c'est extraordinaire, si tu veux, et ça explique beaucoup de choses sur notre situation et de là d'où on vient. Tu vois, les gens de 1900, ils pensaient qu'ils étaient au sommet de la raison, mais dans bien des domaines, ils étaient dans la superstition pure. C'est pas parce que la superstition était enveloppée de science qu'elle n'était pas superstitieuse, tu vois. Et on a eu beaucoup de mal à faire le deuil de ces superstitions. On a eu beaucoup de mal en Europe à faire le deuil de la supériorité raciale des Européens. Parce que ça paraissait être un argument scientifique, donc on pouvait y croire. Bon. Et il y a encore plein de gens qui sont d'authentiques racistes, c'est-à-dire qui sentent jusqu'au fond de leur tribe qu'ils sont supérieurs, plus évolués que les autres peuples. Voilà, ça existe encore. Donc, je veux dire, dans la mythologie de l'époque de 1900, il n'y a pas que la mythologie populaire, criminelle, policière. Il y a la mythologie scientifique, il y a la mythologie politique, etc., etc. Donc, on essaye, si tu veux, de raconter l'histoire vue dans ce monde-là. Tu vois ? Voilà, vue dans ce monde-là.
Vue dans ce monde-là. C'est une vue du monde tel qu'il était aussi un peu... Enfin, de tout le foisonnement, finalement, qu'il y avait à cette époque-là, qu'on a un peu oublié aussi avec le temps, finalement.
C'est-à-dire que c'est surtout que ce foisonnement, prend un très bon connaisseur de la littérature française, ou un très bon connaisseur du cinéma français, enfin peu importe, de n'importe quelle discipline, et d'ailleurs même de l'industrie, prend quelqu'un qui est relié à l'histoire. Ce foisonnement n'est pas inconnu, si tu veux. Il n'est pas inconnu. Tout le monde sait que c'est à cette époque, on a fait des inventions aussi bien dans le domaine du verre soufflé et de l'art des lampes, que c'est le moment, je veux dire, effectivement, du roman feuilleton scientifique. Enfin, tout va de pair, si tu veux. Tout le monde sait. Le truc, c'est que notre société n'arrive plus à revendiquer cette période sur le plan civilisationnel parce que c'était une époque qui était en proie, disons, au démon de la pensée positive, c'est-à-dire voilà, qui croyait au racisme, qui trouvait donc tout à fait normal d'avoir un empire. Enfin, quand cette société pensait à son empire, elle pensait qu'elle faisait œuvre de civilisation. Et c'est aujourd'hui, c'est pratiquement devenu impossible à penser, si tu veux. Et c'est d'ailleurs une des choses qui sont en jeu dans la crise Charlie. Est-ce qu'on peut encore penser ça? C'est pas faire insulte aux populations conquises par l'empire que de se souvenir que nos ancêtres ne se disaient pas en ricanant nous sommes fiers d'être des salauds. Ils pensaient qu'ils étaient en train de civiliser le monde. Mm-hmm. Voilà. Oui. Et il faut prendre conscience de la mythologie scientifique dans laquelle ils ont vécu, ne serait-ce que pour prendre conscience que peut-être nous aussi dans une mythologie scientifique et qu'on ne s'en rend pas compte. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Comprendre comment ces gens ont vécu dans une réalité mentale qui leur paraissait absolument sûre. Je veux dire, à la fin du 19e siècle, je crois que c'est le découvreur du neutron, Rutherford, qui a dit « La science est quasiment terminée. Encore quelques travaux d'épingle et la physique aura terminé sa description du monde. Mm-hmm. » Voilà. De 5 ans plus tard, Einstein, Max Planck, la mécanique quantique, la relativité, tout explose. Tu vois? Donc on peut être... Dans la civilisation scientifique, on peut être à 5 ans aujourd'hui d'une révolution conceptuelle qui fasse voler en éclats le monde dans lequel on vit. Mmh. Or, tous les jugements qui sont rendus sur le monde en ce moment sont des jugements rendus au nom d'une rationalité qui paraît absolue, que personne ne peut contester, etc. Il faut se rappeler que c'est vachement fragile comme situation, tu vois. Et donc, c'est une manière de prendre conscience de cette fragilité, c'est de revoir les gens de cette époque, de l'époque 1900, de revoir leur propre mythologie scientifique, de se rendre compte qu'on peut encore la comprendre. On peut encore comprendre ce que c'est qu'un raciste naturel. Beaucoup de gens sont capables de faire cette expérience. Il suffit de céder à la peur. Mm-hmm. Tu vois, bon, c'est tout. Et donc, refaire cette expérience nous permettra peut-être aussi d'avoir un regard un peu différent sur notre époque.
Ça permet une mise en perspective. Exactement. Finalement, de ce que fait toujours la science-fiction aussi, c'est toujours de remettre en perspective le présent.
C'est toujours de déplacer le regard en le portant sur un aspect inattendu, enfin, que tout le monde voit, mais auquel personne ne prête attention.
Alors un autre aspect aussi, donc bon, l'œil de la nuit, la brigade, oui. C'est donc le super-héros. Oui. Est-ce que le choix du format de publication, donc dans
un format comics,
Format comics, donc c'est voulu parce que c'est on est en scène des super-héros, donc voilà, ou alors c'est juste une...
Alors c'est un problème qui a une réponse et une histoire. L'histoire, c'est pas la réponse. L'histoire, c'est que oui, ce format a été créé, avec la brigade, on peut dire qu'on l'a plus ou moins créé, le 40 rigide format comics. C'était une manière de comme on jouait vraiment le jeu du super-héros, on savait d'entrée qu'on aurait beaucoup de mal à spontanément parler aux lecteurs de bande dessinée franco-belge. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout du truc, autant faire des petits formats, autant diviser ça en chapitres de 22 pages, autant faire des fausses couves intérieures. Jouons le jeu du comics complètement. Bon. Parce que au moment où on a fait la brigade, on n'avait pas encore, si tu veux, le moyen de penser le problème du super et de comment il se relie à la civilisation ambiante, de quoi il est l'expression, de quelle valeur il est l'expression. On n'arrivait pas à penser ce problème en dehors du thème des super-héros. Mmh. Bon. Et on était persuadé qu'on essaye quand même d'être des artistes, donc on était aussi persuadé que ça retentissait sur la forme. C'est-à-dire que c'est pas par hasard, si tu veux, si les histoires de super-héros paraissent par 22 pages tous les mois, c'est que c'est une présence constante et pas du tout un rendez-vous annuel qui célèbre quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui accompagne la vie quotidienne. Donc il y a beaucoup d'épisodes, certains sont totalement chiants et inutiles, ratés, d'autres sont magnifiques, il y a des cycles, il y a des soucis, il y a des personnages qui se développent, c'est comme une forme de vie. C'est une sorte de comédie humaine, mais alors, si tu veux, industrielle, quoi, et consacrée à des personnages mythologiques. Mais basiquement, c'est ça, il y a une vie de ce monde-là. Donc si on s'extrait de ce code-là et des rythmes qu'il impose, de la façon dont on traite le déploiement des histoires, c'est pas cohérent avec le projet qui est lui-même de remonter à cette source-là. Mm-hmm. Bon, voilà. Donc on a décidé de faire comme ça. Et en fait, on a été pendant assez longtemps cantonné, je pense, au rayon des comics. Il a fallu les prix et la réédition en grand format pour que d'un seul coup on passe dans les grands formats, dans les intégrales, Voilà, il y a beaucoup de gens du franco-belge qui nous ont découvert à ce moment-là. Avant, je pense qu'on avait touché que le problème des comics. Donc Comme Delcourt, de son côté, se rendait compte que les comics marchaient bien en import, qu'il a voulu en faire en création nationale, il y avait effectivement, il était logique de dire, bon, bah, c'est ce format-là. Et ce format-là, il retentit aussi sur le rythme de la narration. C'est-à-dire que quand on construit une page en franco-belge, en sachant, disons, qu'on tourne à 10-12 cases par page, mm-hmm. on raconte pas la même chose quand on a 4 ou 5 cases, tu vois, sur une page. C'est-à-dire le rythme est pas le même. Le rythme de défilement des images, la place accordée aux cases, c'est pas le même outil exactement. Mm-hmm. Voilà. Donc ça aussi, alors ça par contre, c'est quelque chose qui compte pour moi. C'est-à-dire que je pense quand même mes cases dans ce format-là.
En termes de
ce format. Si je dois passer au grand format, comme on avait fait avec Masqué, mon découpage est à la limite, disons, pas du vide, mais du trop peu.
Effectivement, masquer un côté un peu plus hybride, on va dire, à ce niveau-là.
Oui, parce qu'on a...
Mais
voilà,
c'est sous le format habituel.
On a appris en tâtonnant, si tu veux. Et rien ne dit qu'on ait trouvé encore la bonne formule avec l'œil de la nuit. Tu vois, j'essaye des choses, je rythme pas de la même manière, je varie des trucs. Et c'est pour essayer de sentir la bonne forme, tu vois, la bonne forme.
Et donc, au niveau des dessins, donc, pour Jess, est-ce que ça a été... Est-ce qu'il s'est imposé dès le départ naturellement comme étant le dessinateur de l'œil de la nuit
vu ce que ah oui, sur la brigade. Enfin, ça, il n'y a jamais eu de. J'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre que lui. Mm-hmm. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc on est quasiment aux deux tiers du tome 3 là.
Oui.
Le tome 2 est fini. Ce qui est très étonnant, c'est que donc à la fin du tome, enfin, on a découvert qu'on ne pourrait pas utiliser le nom du Nyctalope, puisqu'on n'a pas réussi à s'entendre avec l'un des ayants droit. Mm-hmm. Et donc, ça a été absolument choisi, confirmé, définitif, au moment où j'attaquais le tome 3, tu vois.
D'accord.
Et où donc, il y a eu une espèce de... Je me suis retrouvé dans une situation où ça faisait 10 ans que je me battais pour réhabiliter le personnage, et non seulement, finalement, il y avait un refus de ceux qui avaient le droit de valider ça, mais en plus, ils m'interdisaient de continuer à utiliser le nom, tu vois. Mm-hmm. C'est leur droit, j'ai aucun grief, c'est leur droit, c'est la loi, enfin, peu importe. Mais du coup, il y a eu un moment un peu difficile où je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre l'inertie naturelle, si tu veux, que donne à l'écriture le fait d'écrire sur un personnage qui a vraiment existé. C'est-à-dire que écrire en s'inscrivant dans le monde de l'air, même en le modernisant, tu vois, mais autour d'un personnage et à partir d'histoires qui ont vraiment existé, donne à l'entreprise une légitimité particulière. Mm-hmm. C'est-à-dire que on ne peut pas me dire tu fantasmes cette époque. Je peux répondre, tu vois. Mm-hmm. Je peux dire non, je ne vous raconte pas, je ne suis pas en train de vous inventer de toute pièce un passé que vous auriez oublié. Il y a vraiment eu un passé et vous l'avez vraiment oublié. Et les retrouvailles sont une occasion. C'est aussi la dimension des retrouvailles a un côté mal au trésor. C'est-à-dire c'est comme redécouvrir, je sais pas, tu redécouvriras un Little Nemo français oublié au fond d'un grenier, tu t'y regarderais la date 1903, tu dirais qu'est-ce que c'est que cette merveille, comment les gens l'ont pas vu, on a un grand classique chez nous qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Bon. Donc, pour des tas de raisons, le Nyctalope peut pas être un grand classique comme œuvre, parce que l'œuvre est défaillante sur le plan littéraire, mais l'univers et le personnage sont des archétypes. Et donc, c'est agréable, et il y a une dimension retrouvaille et mal au trésor, à se rendre compte qu'on a des archétypes qu'on aime beaucoup et qu'on pensait ne pas avoir et qui circulent dans la culture française, qu'il faut juste les montrer. Voilà. Donc c'est tout ça que permet le rattachement à l'histoire réelle, éditoriale, mm-hmm. c'est tout ça que permettait de dire le Nyctalope, c'est tout ce qui arrive avec ce truc-là, tu vois. Donc me couper de ça, c'était aussi me couper d'une partie de l'énergie
de l'histoire, de la
création. Il y a des tas de questions, d'un seul coup, je me dis... Et donc ça se verra en lisant le tome 3, il y a des choix que j'ai faits auxquels je ne suis plus tenu. Mm-hmm. En ce qui concerne la psychologie du personnage, en ce qui concerne son système de valeurs, en ce qui concerne... voilà. Et je sens que Jess, c'est la réponse à ta question, après avoir, je pense... alors il y a vraiment des scènes où il y a des scènes en particulier dans le tome 2 où c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et mm-hmm. dans le tome 3, c'est encore plus exceptionnel. Parce que dans le tome 3, d'un seul coup, il fait ce que je fais moi. C'est-à-dire, il se sent libre de... C'est plus l'univers de Jean de La Hire, c'est le nôtre.
Il se le réapproprie.
Voilà, c'est à nous. Donc du coup, il y a une espèce de norme qu'on s'était mis tous les deux, de rester dans les clous, disons. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, faire de Sinclair un droit de l'homiste, c'était une trahison. Tu vois, tout comme je considère que dans Black et Mortimer, le fait d'avoir donné à Mortimer, dans je ne sais plus quel faux album d'après, là, une copine indienne à 15 ans, mais on croit rêver, quoi. C'est SOS racisme dans l'Europe des années 30. Enfin, on croit vraiment rêver. Moi, ça, c'est du politiquement correct, comme c'est pas permis.
Oui, quoi. Ça correspond plus du tout à ce...
Bientôt, on va nous faire des Tintins amis avec des jeunes noirs en 1920 au Congo belge, quoi. Tu vois, quand on sait ce qu'a été le Congo belge. C'est comme ça, c'est dur à avaler, il faut assumer. Bon. Donc, il n'y aura pas de réconciliation si on ne se regarde pas en face là-dessus, tu vois. Bon. Donc, donner à Mortimer une petite amie hindoue, alors qu'il était adolescent, européen, anglais, enfin bon... C'est d'une malhonnêteté intellectuelle. Enfin voilà, bon, c'est voilà. Et donc moi, si tu veux, le personnage, tant qu'il s'appelait le Nyctalope, j'étais coincé par ça, par cette espèce de rectitude morale que je voulais avoir, ne pas faire le personnage mieux qu'il était, pas moins, mais pas mieux.
Pas l'idéaliser quelque part.
Non, pas l'idéaliser. Il est idéalisé par Laïr lui-même. Il en fait un surhomme. Donc, je veux dire, il l'a animé tout le long de sa carrière, jusque pendant l'occupation. Donc, il y revenait périodiquement. Il y croyait assez. Bon, c'est quand même un personnage qui a signifié quelque chose pour lui. Et donc, voilà, c'est son image idéalisée. Il se représentait comme ça, probablement tel qu'il aurait aimé être, un homme puissant. Compétent scientifiquement, compétent dans l'occulte, ayant plein de maîtresses, fort physiquement, et voyant la nuit, bon, voilà, avec un regard perçant, alors que lui avait été myope et ensuite gazé, presque avec de graves problèmes aux yeux toute sa vie. Donc, c'est une image de surhomme. Et beaucoup de jeunes Français se sont reconnus dedans, puisque le personnage était populaire. Donc, c'est une image qui traîne dans notre inconscient. Je ne sais pas si elle peut aller beaucoup plus loin, si tu veux, en termes d'évolution. Que ce signalement, mais en tout cas elle existe, voilà. Et le fait de ne plus pouvoir donc utiliser le nom du Nyctalope a été un petit deuil, mais aussi avec Jess, spontanément on s'est dit bon, ben alors l'univers est à nous, alors on en fait ce qu'on veut. Donc si tu veux, le tome 3, tout en essayant quand même de rester dans les clous du personnage, va essayer de partir dans des directions c'est plus le Nyctalope, c'est l'œil de la nuit, tu vois, dans le tome 3
l'œil de la nuit, voilà,
c'est vraiment l'œil de la nuit. Il ne faut plus y penser comme un Nyctalope. Dans les deux premiers tomes, on a le droit. C'est un personnage hybride. C'est le Nyctalope recouvert d'une couche de peinture. Mais dans le tome 3, ce n'est plus le Nyctalope. Les liens sont rompus.
Voilà. D'accord.
Et le personnage, du coup, peut devenir plus riche qu'il ne l'est vraiment. On verra.
Oui, donc c'est vraiment finalement la création qui finit par un peu...
Qui l'emporte. Bah, sinon, si on laisse une décision de justice tuer la création, c'est un peu triste, quoi. C'est comme avoir un... C'est comme avoir une grippe pendant que t'écris. Je veux dire, en général, t'es mécontent, tu files la grippe à un personnage, tu vois. Tu dis, souffre avec moi, c'est tout. Et tu te marres de le voir souffrir. Bon, et ça te soulage, tu vois. Donc, la propre de la création, c'est qu'elle doit pouvoir faire feu de tout bois. Elle doit pouvoir faire feu de tout bois. Donc, voilà, le personnage enregistrera par son changement que... La création a remporté une victoire sur le juridique.
Voilà. Et donc justement, donc tu as repris le Nyctalope dans un premier temps, donc qui va devenir complètement l'œil de la nuit.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres personnages, même pendant l'écriture de l'œil de la nuit, est-ce qu'il y a d'autres personnages que tu as eu envie de...
Ah, moi, j'ai, si je peux, mais d'ailleurs, à la limite, ça n'a même pas besoin d'être que moi, c'est-à-dire que d'autres scénaristes pourraient s'emparer de ce truc-là, et on pourrait très bien imaginer un monde en construction avec des œuvres de différents auteurs. Il suffirait juste d'avoir une espèce de chronologie générale que je peux fournir, mais peut-être il faut voir. Il nous manque, si tu veux, un grand succès, un succès net pour qu'on se dise tiens, faut peut-être essayer de déployer comme ça tout un univers. Pour l'instant, c'est que moi. S'il y a du succès, je serais tout à fait d'accord pour qu'il y en ait d'autres, tu vois. Ne serait-ce que parce que je peux pas écrire 12 BD, 14 BD par an,
c'est compliqué,
c'est trop. Donc, mais refermons la parenthèse. Oui, moi j'aimerais beaucoup raconter. L'histoire qu'on voit mentionnée donc au début de l'œil de la nuit du prisonnier de la planète Mars de Gustave Lerouge, parce que c'est un très beau livre. Il souffre surtout au début d'impasse de feuilletoniste, c'est-à-dire que Lerouge, comme feuilletoniste, quand il se lâche, c'est grave, quoi. C'est-à-dire qu'il invente, mais des circonstances et des retournements de situation, des trucs, enfin, c'est pour nous, c'est trop, quoi, tu vois, ça marchait peut-être pour un lecteur de 1900, mais nous, tout nous paraît énorme. Mais dès qu'il sort de ce registre, dès qu'il est un peu poète, et dès qu'il est un peu profond, et dès qu'il est un peu mystique, et il peut l'être aussi, alors là, ça devient grandiose, ça devient fantastique. Et voilà, Le prisonnier de la planète Mars, c'est le grand space opéra français de 1908. je veux dire, que n'importe quel lecteur de science-fiction serait fier de lire, quoi, tu vois, en disant c'est chez nous. Et c'est avant John Carter, enfin, ou juste avant la même. Oui. Et c'est, bon, c'est exactement le même truc, hein. C'est un homme projeté sur Mars par la force de la pensée, qui affronte. Voilà, alors, ce qu'il découvre, c'est pas le western de John Carter, c'est pas des tribus à conquérir. Mm-hmm. C'est un monde d'une étrangeté absolue, très hostile. Bon, mais voilà, c'est comme ça que les Européens voyaient le truc. C'est la différence avec les Américains. Les Européens voyaient ça comme un monde de cauchemar. Mais c'est quand même chez nous. Et ça donne des récits qui sont assez flamboyants. Donc moi, j'aimerais beaucoup raconter cette mm-hmm. histoire et faire ensuite, selon la technique qu'on utilise pour la brigade, de Darvel, un personnage d'aventurier récurrent, tu vois. Pour le faire aller régulièrement de la Terre à Mars, quoi. Voilà, le spécialiste des problèmes Terre-Mars. Après tout, c'est dans un univers de super-héros, je trouve ça très bien, tu vois, c'est qui est ça. J'aimerais beaucoup raconter l'histoire de Félifax, le oui. tigre, qui est un très beau personnage. Enfin bon, si tu veux, j'aimerais faire un cycle sur Palmyre, la sorcière. Mm-hmm. Que je trouve assez formidable. J'aimerais aussi faire un cycle sur Sar Dubnotal, le grand psychagogue, qui était probablement le quatrième grand personnage de l'année 1908, des années 1908-1910. Il y a Fantomas, il y a Lupin, mm-hmm. il y a Nyctalope, et il y a Sar Dubnotal. Alors évidemment, le problème, c'est que son nom est à chier. mais c'est peut-être le meilleur, disons. En tout cas, c'est vraiment un détective psychique qui résout des affaires de hantise et tout. Ce serait un très beau Docteur Strange français, tu vois. Mm-hmm. Il est là, il n'y a qu'à le travailler. Donc, et puis aussi, j'aimerais sortir de France. C'est-à-dire qu'il y a D'accord. quelques personnages que j'aimerais, par exemple, j'aimerais me pencher sur le personnage du golem à cette époque, oui. tu vois. Parce qu'il incarne quelque chose de tellement puissant dans la brigade. Mm-hmm. Au fond, je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que signifiait son statut avant. Ça m'a paru bien de le faire partir. Mm-hmm. Mais j'aimerais bien le voir avant son départ.
Avant son
voir
départ,
ce qu'il
ouais.
fait dans ce mm-hmm. monde. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Il est la source de quelque chose. Mais il est la source de la moralité, disons. Voilà. Donc, son départ signifie la fin de la moralité, d'une certaine manière. C'est bien ça dont il est question dans
la brigade.
Dans la brigade mm-hmm. voilà. Donc, qu'est-ce que c'est quand il est là? Et qu'est-ce que c'est le refusé? C'est l'antisémitisme, par exemple. C'est, voilà. Ça a beaucoup à voir avec le mythe des Indo-Européens. Hein. Donc, fakir hindou, fascination pour l'Inde. Tu vois? J'essaye peu à peu oui. de sentir ce qu'a pu être le monde mental des gens de cette époque. Mm-hmm. Parce que pour nous, c'est très difficile. Il est vraiment aussi étranger que celui du Moyen-Âge, quasiment.
Bien sûr, ouais.
Mm-hmm. Donc, et ne pas pouvoir se projeter dans les mondes d'avant, c'est quand même très dommageable. Parce qu'on a vraiment l'impression que le nôtre, on est prisonnier dedans. On oublie qu'on peut changer de monde mental, tu vois. On n'est pas pris. Quand on est prisonnier d'un monde mental, on peut en changer. Ça s'appelle la liberté. Mm-hmm. Voilà. On oui. reconstruit un monde à partir de la liberté. Donc c'est quoi le golem? C'est la liberté. C'est la liberté telle que la voient les Hébreux, tu vois. C'est mm-hmm. la liberté du monothéisme, du Dieu invisible par rapport au Dieu visible qui t'agresse. C'est la liberté morale. C'est bon, voilà. C'est moi, j'ai envie de traiter ces questions-là. Je pense que c'est le moment de refaire de la religion, de la métaphysique. De ne pas avoir peur de parler de ça, parce que manifestement, les crises de notre société, mmh. elles ont aussi un bord d'attaque sur le plan esthétique, philosophique, religieux, métaphysique. Et moi, c'est ces sujets qui me fascinent. Ça fait 10-15 ans que j'ai pris cette décision, ce qui n'a pas été évident à l'époque, mmh. parce que ça représentait une rupture pour moi avec le milieu dont j'étais issu, qui lui ne voulait pas entendre parler de ces sujets, enfin, ou en tout cas pas dans ces termes. Mais comme tu le sais, hein, puisque tu oui. es d'actu SF, donc vous étiez en première ligne. Non, mais j'en parle aujourd'hui juste simplement pour constater, si tu veux, cette rupture. Cette... Mm-hmm. Elle avait ce sens-là. Moi, je sentais, sans être vraiment capable de pouvoir le justifier. Mais justement, une partie de ça relève de l'ordre de l'intuition ou de la croyance, et pas de l'argumentation rationnelle. Mm-hmm. On le sent ou on le sent pas. C'est voilà. ça qu'on a appris ce jour-là, au fond, tu vois. Mm-hmm. Il y a ceux qui le sentent et il y a ceux qui le sentent pas. C'est ni bien ni mal.
Voilà,
mais il y a ceux qui le sentent pas. Moi, je sentais très fort que... Ouais, que le chantier culturel de l'époque, c'était la France, l'Europe, la philosophie, l'articulation religion-science, mm-hmm. et qu'il y avait des choses à faire à l'intersection de tout ça. Et non plus seulement à l'intersection de tout ça sauf la religion. Il mmh. fallait réintégrer la religion et la mythologie dans la pensée. Voilà. Et donc, il y a un prix.
Il y a un lien. Enfin, ça, tout n'est pas sorti de nulle part non plus. Enfin, voilà,
non, mais regarde les deux romans qui triomphent cette année. C'est mm-hmm. Le Royaume de Carrère, qui est sur la nostalgie, enfin, sur le fait de d'avoir cru, de ne plus croire, etc. Et le roman de Houellebecq qui raconte la conversion religieuse du ouais. pays. Bon. Donc, manifestement, il y a une question religieuse dans l'air, tu vois. Et on l'évacuera pas en faisant simplement c'est pour les grands enfants qui croient encore en Dieu. Non, les grands enfants, c'est toute la planète. Donc, et nous aussi, on croit en des dieux, mm-hmm. sauf qu'ils sont déguisés sous forme scientifique. Et c'est ça qu'on découvre dans ces bandes dessinées. Donc voilà, moi, c'est mon chantier depuis un bon moment mm-hmm. maintenant. Les événements de la semaine dernière me donnent beaucoup à réfléchir. Et je pense mm-hmm. que ça va se déposer et je vais écrire dessus parce que je pense qu'on est entré maintenant de plein pied dans la crise.
Oui, effectivement. Voilà.
Donc il faut produire là-dessus, il faut penser ce problème. Et voilà, ça me paraît un but en soi pour un artiste de penser ce problème. Mmh. On vit dans une époque hallucinante. Il faut penser cette hallucination pour éventuellement en sortir.
Effectivement. En tout cas, on te lira avec plaisir.
Merci, merci.
À cette occasion, et donc on invite tous les lecteurs à découvrir L'Œil de la Nuit, à découvrir l'univers étendu aussi, du coup, donc la Brigade Chimérique, masquée, etc. Puisque bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu, et donc au plaisir de lire les suites.
Merci.
Merci à toi.